Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser au travail de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui permet aux enfants défavorisés atteints de malformations du cœur d'être opérés en France lorsque cela est impossible dans leur pays. Car près d'un enfant sur 100 naît dans le monde avec une malformation cardiaque grave. Ces malformations qui touchent les enfants peuvent être soit d'origine infectieuse, soit d'origine congénitale. Et sans intervention chirurgicale, elles sont parfois mortelles. Mais ces interventions nécessitent un matériel de haute technologie qui est très cher, qui fait souvent défaut dans les pays en voie de développement. C'est pourquoi de nombreux enfants ne peuvent pas être opérés dans leur propre pays. On en parle avec le professeur Francine Leca, qui est cofondatrice et présidente de Mécénat Chirurgie Cardiaque, première chirurgienne cardiaque en France. Si vous avez envie de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Hélène Diamé, qui est cardiologue et référente locale pour Mécénat Chirurgie Cardiaque à Dakar, au Sénégal. Et pour terminer, on parlera de la chaîne du savoir avec le docteur Éric Chesson, qui est chirurgien vasculaire, chef de service à l'hôpital René Dubos à Pontoise et président de la chaîne de l'espoir. Professeur Francine Leca, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. On parle régulièrement de ce que fait votre association. Ça m'est arrivé dans l'avion, en revenant d'Afrique, de tomber sur des enfants qui justement étaient rapatriés en France pour être opérés. Quelles sont les malformations cardiaques qui touchent les enfants ?
Elles sont très nombreuses. Comme vous l'avez dit, elles sont essentiellement d'origine congénitale. Mais il y en a aussi en Afrique qui sont dues au streptocoque et à ce fameux rhumatisme articulaire aigu qui abîme fortement les valves cardiaques. Mais disons que plus de 80% sont quand même des congénitaux.
C'est ça. Donc les infectieuses, ce sont ces angines pas soignées sous antibiotiques qui en gros dégénèrent, c'est ça ce qu'on peut dire ?
Oui, exactement. Ce streptocoque qui va sécréter une toxine, qui va, comme on disait autrefois d'une très jolie formule, lèche les articulations et mord le cœur. C'est pour ça qu'on dit rhumatisme articulaire aigu. La fièvre, l'angine et les douleurs articulaires passent, mais par contre, s'il y a une atteinte cardiaque, elle est gravissime.
Ces maladies-là ont disparu des pays occidentaux grâce aux antibiotiques.
Oui,
on les retrouve quasiment que dans les pays en développement,
oui.
C'est ça.
Oui.
Par contre, pour ce qui est des malformations cardiaques, les 80% dont vous nous parliez, ça, c'est tout pays confondu.
À tout pays confondu, quel que soit le pays du monde, la proportion est à peu près la même, de 8 pour 1000, on arrondit à 1%, mais en fait...
Sans rentrer forcément, parce que c'est compliqué, le cœur est un organe compliqué, mais quelles sont ces malformations? En quoi ça empêche finalement le développement de l'enfant?
Non, le cœur n'est pas un organe compliqué, c'est un organe simple. C'est une pompe avec des tuyaux qui y arrivent et d'autres qui en partent. Et les atteintes congénitales sont multiples. Est varié, ça peut être des trous à l'intérieur du cœur, ça peut être des rétrécissements justement sur ces fameux vaisseaux qui arrivent ou qui partent du cœur, ça peut être des malpositions de ces vaisseaux par rapport au ventricule. Et tout ça crée beaucoup de malformations différentes et de gravités différentes aussi. Il y a des choses assez simples et puis il y a des malformations extrêmement complexes.
Comment pose-t-on le diagnostic ? Je dirais, quels sont d'abord les signes qui alertent et à quel moment s'en rend compte ? J'imagine que là, il y a une différence nord-sud.
Le diagnostic, il doit être suspecté en général. Alors, je vous dirais qu'en France... les cardiopathies congénitales étaient d'abord diagnostiquées par les cardiologues, ensuite ça a été diagnostiqué par les pédiatres, et maintenant en France c'est souvent diagnostiqué par l'échographie anténatale. Donc vous voyez l'évolution. Disons que dans ces pays, ce sont des enfants qui naissent avec une malformation qui se manifeste plus ou moins tôt dans la vie, mais les symptômes qui doivent alerter sont toujours les mêmes. C'est soit un enfant qui pousse mal,
soit un enfant qui grossit pas,
qui a du mal à manger, donc qui ne grossit pas. Ce sont des enfants qui sont cyanosés, c'est-à-dire qui sont bleus et qui peuvent aller jusqu'à faire des malaises. Et à ce moment-là, ce qu'il faut bien sûr, c'est examiner l'enfant et en particulier l'ausculter. Et on trouve en général, pas toujours, mais dans la grande majorité des cas, ce qu'on appelle un souffle cardiaque qui doit, à ce moment-là, évidemment, alerter. Ensuite, il faut arriver à faire le diagnostic. Et pour parler de l'Afrique, par exemple, puisque 70% des enfants que nous prenons viennent d'Afrique, il y a des cardiopédiatres de plus en plus compétents aujourd'hui, et d'ailleurs nous contribuons depuis des années à en former. Donc ils arrivent à la fois par la clinique et à la fois par l'échographie à faire un diagnostic parfois excellent et tout au moins qui se rapproche fort de la réalité. Donc les diagnostics sont faits, mais une fois que le diagnostic est fait,
qu'est-ce qu'on fait?
Et là, c'est là que le bât blesse, parce que il n'y a pas, dans la plupart de ces pays, de service de chirurgie cardiaque pédiatrique, qui est quand même une chirurgie très, très spécialisée.
Et j'imagine pas forcément très simple, même si vous nous avez dit que le cœur était un organe relativement simple, mais l'opération n'est pas forcément. On va voir, tout au long de cette émission, la prise en charge que vous faites, mais j'imagine que cette phase de diagnostic est absolument essentielle, parce que c'est comme ça que vous savez quels sont les enfants que vous allez opérer. Il y a maintenant suffisamment de bon moyen de diagnostic en Afrique pour que vous sachiez...
Oui, tout à fait. Et vous savez, le diagnostic d'une cardiopathie congénitale se fait sur la clinique, sur l'examen de l'enfant. L'examen de l'enfant l'examen physique doit déjà vous dire « je suis en face d'une malformation cardiaque congénitale ». Ensuite, il y a les différentes étapes pour affiner le diagnostic. Et évidemment, on termine, aujourd'hui, on a un examen roi qui est l'échocardiographie, qui va permettre de visualiser la malformation. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir examiner un enfant. Là encore, c'est assez simple, mais le mode d'emploi est assez simple, mais encore faut-il l'apprendre. Et c'est pour ça que nous avons créé cette bourse de formation il y a presque une dizaine d'années maintenant. Persuadé, et Elena que vous allez interroger tout à l'heure, je pense, vous le dira, persuadé que c'est comme ça que tous ces pédiatres et cardiologues en Afrique pourront rapidement poser les bons diagnostics.
On reparlera de cette bourse de formation dans la deuxième partie de l'émission. Juste une question supplémentaire. Vous avez dit que 70% des enfants que vous opérez venaient du continent africain. Les 30% restants viennent d'où ?
Du monde entier. Vraiment, ça a l'air bête de dire ça, mais c'est vrai. Ça peut aller de récemment, on en a reçu d'Haïti, on en a reçu de Birmanie, ils viennent du Laos, on en avait beaucoup, moins maintenant, pour les difficultés que vous connaissez, qui venaient de Syrie. On en a eu du Tibet, c'est vraiment très très vaste. Mais c'est vrai que la francophonie fait que notre relation va surtout avec toute l'Afrique de l'Ouest.
C'est ça, avec les pays francophones. On va voir tout au long de cette émission du comment vous vous organisez pour accueillir ces enfants, et entre autres avec l'accueil dans des familles. Aujourd'hui, je reçois le professeur Francine Lecap, présidente de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et Pauline Mocor est allée rencontrer Alette, qui est mariée, mère de 4 enfants, qui ont aujourd'hui entre 18 et 30 ans. Cela fait 10 ans qu'elle reçoit des enfants du monde entier pour qu'ils soient opérés en France. Toute la famille est partie prenante dans cette démarche d'accueil. D'ailleurs, elle a en fait été initiée par une des filles de la famille qui avait 9 ans à l'époque. C'est elle qui a eu l'idée. Aujourd'hui, une seule fille vit encore à la maison, mais les autres enfants passent le week-end et ils aiment d'ailleurs jouer et rencontrer ces enfants accueillis. Myriam, elle est arrivée le 13 novembre, partie le 7 janvier, donc avant-hier, venue pour se faire opérer du cœur. Elle a donc pu être totalement guérie.
En ce moment, nous avons une petite Myriam, de bientôt 13 ans, qui vient de Côte d'Ivoire. L'opération a été un succès inespéré, c'est vraiment une miraculée. Bon, les difficultés qu'elle a maintenant, c'est plus des difficultés physiques, parce que depuis 2 ans, elle ne marchait plus. Donc maintenant, elle fait la rééducation 3 fois par semaine, on va chez le kiné, et elle réapprend à marcher, à bouger dans tous les sens. Elle le fait ça avec application, et elle mange surtout, parce qu'elle mangeait une demi-cuillère à café à son arrivée, et maintenant elle mange des plâtrés de riz, de sardines, de trucs comme ça, enfin je veux dire, impressionnante. Et c'est vrai que rien que ça, toutes ces petits signes, c'est merveilleux.
Pour un enfant d'un pays étranger qui vient en France pour se faire hospitaliser, pourquoi c'est important de se faire accueillir dans une famille ?
À la maison, souvent, ils se remettent plus vite parce que ils sont dans un environnement qu'ils ont connu déjà en général 8 à 10 jours avant l'opération. Et puis, on peut jouer, on peut aller se promener, on peut faire des choses qu'on peut pas faire à l'hôpital.
Myriam, par exemple, est-ce qu'elle vous parle de ses parents ?
Oui, elle en parle. Au début, elle avait un peu le cafard, même.
Ça se manifestait comment ?
Par des larmes silencieuses. Je pense que pour les petits, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus facile, parce que finalement, ils ont besoin d'une maman.
Voilà, ils ont besoin vraiment d'affection, d'amour, de tendresse. Et si on leur donne, il n'y a vraiment aucun problème. Ils s'adaptent hyper vite. Ça arrive en général très tôt le matin à l'aéroport. Et en général, avant la fin de la matinée, c'est terminé. Et certains, c'est même instantané. Il n'y a pas un pleur, pas une larme, il n'y a rien.
Comment vous préparez l'arrivée d'un enfant chez vous ?
Ben, on prépare la chambre suivant l'âge de l'enfant et puis on essaye de collecter aussi des vêtements parce qu'il y en a qui arrivent avec un tout petit sac à dos, avec une couche et un biberon, point. Et en plus de ça, ils viennent en général de pays chauds. Quand ils viennent en hiver, ben, c'est sûr que les affaires d'hiver, faut prévoir.
Quelles sont les difficultés dans l'accueil ?
Quand on a des petits, il faut quelquefois s'adapter à leur nourriture. D'abord, ce sont en général des enfants qui mangent quasiment pas, voire pas du tout. Donc, il faut trouver le truc qui va leur plaire. Quelquefois même, il y en a un qui est arrivé pas sevré, donc il a fallu se débrouiller. Il y en a une autre qui était tellement épuisée qu'on lui a donné le lait à la petite cuillère et on émiettait des biscuits qu'on lui donnait aussi comme un petit moineau, quoi.
Qu'est-ce que vous devez faire d'autre pour accompagner l'enfant ?
Alors, souvent, je dors avec les enfants. Parce que c'est les habitudes qu'ils ont. Souvent, ils dorment avec leurs parents ou leurs frères et sœurs, alors que nous, on a chacun notre chambre. Bah, eux, c'est pas toujours le cas.
Et comment vous avez ces informations ?
Alors, les parents remplissent un formulaire où on a quelques informations. Quelquefois aussi, on a une lettre de la maman qui raconte un peu la journée de son enfant. Donc ça, c'est vrai que c'est très précieux. Et puis, on s'adapte, hein. Leur parler, les câliner, même les tout-petits. En fait, quand on leur parle, c'est étonnant parce que même si c'est pas leur langue, même s'ils sont vraiment trop petits pour vraiment comprendre, quand vous leur expliquez les choses simplement, calmement, sereinement, même sur un tout-petit, et dont c'est en plus même pas la langue éventuellement, mais ils comprennent.
Alors, quel message vous leur faites passer, vos enfants ?
Les enfants, je leur parle toujours beaucoup quand ils sont là et je leur explique bien combien leurs parents les aiment et ont osé les envoyer au bout du monde pour leur sauver la vie. Et quand l'enfant repart, je dis toujours aux parents, surtout n'hésitez pas à parler à vos enfants, même s'ils sont tout petits, et puis à le refaire de temps en temps, une petite piqûre de rappel pour leur dire, mais on t'a pas abandonné, c'était pas facile pour nous non plus, mais on t'aimait tellement que voilà, on souhaitait le meilleur pour toi. Et pour toi, bah, c'était l'opération en France, loin de nous.
Ça peut être angoissant pour vous ?
Ah ben moi, je m'habitue pas aux opérations, je suis toujours très angoissée la veille de l'opération, quand ils sont sur le billard, moi j'ai des nœuds dans l'estomac, je dors pas bien, je m'implique totalement.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du travail de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque avec le professeur Francine Lequin. Professeur Lequin, votre réaction à ce témoignage d'Alette, ces familles d'accueil ont absolument un rôle essentiel, sont un maillon essentiel de la chaîne de l'opération.
Je ne veux pas dire que j'ai les larmes aux yeux en entendant Alette de Font-Colombe, mais c'est tellement l'image de ces familles merveilleuses, parce que j'ai un amour et une estime et une reconnaissance infinie. Vous avez entendu, il n'y a rien à ajouter. Elle a tout dit,
c'est un engagement incroyable.
C'est merveilleux.
Ils vont chercher l'enfant à l'aéroport,
l'accueillent chez eux,
puis à partir de là, vont
c'est
à l'hôpital.
C'est leur enfant, mais vous avez entendu Alette. Les nœuds dans l'estomac, la veille de l'opération, le dialogue de l'amour, les câlins, elle s'adapte à tout, et pratiquement toutes les familles sont comme ça, elles sont exceptionnelles.
Et c'est ça, ce sont ces familles qui emmènent l'enfant à l'hôpital, qui vont le voir pendant tout le temps de l'hôpital, c'est ça, et qui vont le rechercher avant qu'ils repartent, qu'ils puissent repartir dans leur pays, c'est comme ça que ça se passe ?
Absolument, c'est leur enfant, vous avez entendu l'interview, il a tout dit, c'est leur enfant.
On a Oumar qui nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire, et Oumar, bonjour.
Bonjour madame.
Voilà, vous nous avez laissé un message parce que vous êtes tout à fait concerné, votre fille vient d'être opérée en France, c'est bien ça, racontez-nous Oumar.
Oui. J'ai ma fille, bonjour d'abord et bonne année à tout le monde. J'ai ma fille qui est partie le 12 novembre 2014. Dieu merci, son opération a été faite. Ça a réussi. Donc, d'ici peu, elle doit revenir. Donc, l'émission se concerne à double titre. Ma fille s'appelle Anta Yassine. Et Dieu merci pour moi parce que j'ai souffert un peu.
Justement, racontez-nous, parlez bien près du téléphone, hein, parce que la ligne téléphonique n'est pas très bonne. Racontez-nous d'abord comment vous vous êtes aperçu que votre enfant, que votre fille ne grandissait pas normalement et qu'il y avait un problème.
Bon, à partir de un an ou bien moins de ça, quand elle faisait les quatre pattes, donc on a su qu'elle se souffrait beaucoup. Bon, après, de pédiatre en pédiatre, on n'a pas eu le bon diagnostic. Et surtout, c'est un pédiatre qui nous a donné d'aller voir la cardiologie, près de 6 mois après. Hein. Et c'est à la cardiologie, finalement, on a pu savoir que l'enfant avait un problème cardiaque.
Je voudrais vous faire réagir d'abord là-dessus, professeur Francine Lecar. Restez en ligne avec nous, hein, Oumar, j'ai encore des questions à vous poser. Le problème, on voit bien, c'est l'errance thérapeutique pendant un temps avant que le diagnostic soit bien posé.
Oui, c'est sûr, il faut apprendre absolument aux cardiologues et surtout aux pédiatres de ces pays à ausculter l'enfant. Quand on entend un souffle en mettant le stéthoscope sur la poitrine d'un enfant, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, comme je vous le disais, pour affiner le diagnostic, c'est parfois plus difficile, mais au départ, là, un enfant de 1 an, on fait le diagnostic à 4 ans.
C'est tard, en fait, on aurait pu le faire plus tôt.
Ah, bien sûr, oui. Bien sûr, elle avait ce souffle depuis sa naissance, ça n'arrive pas en cours de route.
Et cet examen avec le stéthoscope doit être systématique avec des enfants, justement, pour vérifier que le cœur va bien?
Bien sûr.
C'est ça, c'est quelque chose de régulier. Oumar, donc, au bout d'un moment, le diagnostic est posé. Comment avez-vous été au courant du travail de mécénat chirurgie cardiaque? Oulala, la ligne téléphonique se dégrade. Il faut que vous parliez vraiment bien près du téléphone parce que là, on vous entend pas bien. Je vous demandais comment vous avez été au courant du travail de mécénat chirurgie cardiaque.
Oui, c'est un médecin qui me l'a dit.
Oui.
J'ai mis près de 3 ans, après 3 ans. Hein, et puis, on m'a dirigé vers le représentant à Abidjan. Et j'ai pu voir un responsable, sinon une dame, Madame Yed. Et elle m'a expliqué, on a pu faire le prix ensemble pour l'expédier. Donc, le médecin a répondu favorablement. Mais auparavant, on a eu à faire des courriers à plusieurs associations, ouais. On n'a pas eu de réponse.
Et comment vous avez réagi, Oumar, quand on vous a dit mais il va falloir envoyer votre fille en France pendant plusieurs mois pour qu'elle soit opérée?
Vraiment, j'étais très content. Et ma femme était toute en larmes tout le temps. Et on a fait. Et on n'a vraiment pas eu d'inconvénients.
Ouais. Et pas d'inquiétude, ça n'a pas été dur la séparation à l'aéroport quand elle part?
Bon, ma fille aussi est géniale, hein, je vous le dis, c'est pas parce que c'est ma fille.
Mais elle est géniale.
Elle a crié certes, voilà, elle a crié certes, mais elle a participé à la tâche à tout le monde parce que le médecin nous prévient.
Et Oumar, et l'opération donc a bien réussi, vous devez récupérer votre fille dans combien de temps?
Bon, normalement, je vais venir le mercredi, mais ça a été reporté. Donc, je pense que d'ici la fin du mois...
Elle devrait être là. Vous nous tenez au courant. Merci vraiment beaucoup, Oumar, de nous avoir appelé d'Abidjan pour nous raconter cette histoire. Professeur Francine Lecar, c'est exactement comme ça que ça se passe?
Oui, j'ai pas tout bien entendu, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, les parents, j'imagine... C'est dur pour eux de confier comme ça leur enfant. Et vous l'a dit, la maman était en larmes.
Mais c'est une chance.
Mais les pauvres, au bout d'un moment, ils n'ont pas le choix. C'est ça où l'enfant va mourir dans un certain nombre de cas. Et de toute façon, l'enfant ne va pas bien. Là, je vois que ce petit bébé avait, enfin, cette petite fille de 4 ans avait une tétralogie de Fallot, ce qu'on appelle la maladie bleue. C'est-à-dire, c'est des enfants qui peuvent pas bouger, qui peuvent pas courir, bien évidemment, qui sont essoufflés, qui sont cyanosés, qui peuvent faire des accidents vasculaires cérébraux.
C'est... Et une fois l'opération, ça y est, c'est reparti?
Ah oui, oui, bien
sûr. C'est incroyable.
Mais c'est une chirurgie miracle, vous savez, la chirurgie cardiaque de l'enfant. Une chirurgie miracle. Faire d'un enfant malade un enfant guéri, je me rappelle avoir dit il y a fort longtemps cette phrase, mais c'est exactement ça.
Professeur Francine Lecar, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler du travail de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, et on aura justement au téléphone une cardiologue à Dracar avec qui vous êtes en lien. Un téléphone, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du travail de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque avec le professeur Francine Lecac, cofondatrice, présidente de Mécénat Chirurgie Cardiaque et première chirurgienne cardiaque en France. Si vous avez envie de lui poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Professeur Francine Lecard, dans la première partie de l'émission, vous nous avez dit à quel point c'était important de former des cardiologues sur place dans les pays en développement pour être capable de diagnostiquer ces pathologies. On a justement au téléphone le docteur Hélène Diamé, responsable de l'unité de cardiologie à l'Institut d'hygiène sociale de Dakar au Sénégal. Docteur Hélène Diamé, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
Vous êtes référente locale pour mécénat chirurgie cardiaque. Alors justement, ça veut dire quoi être référente locale? Quel est votre rôle exactement?
Alors mon rôle, c'est de diagnostiquer assez tôt les cardiopathies congénitales et même les cardiopathies acquises, puisque mécénat prend autant en charge les cardiopathies congénitales que les cardiopathies acquises.
Dans les acquises, et vous parlez de ce dont on a parlé en début d'émission, c'est-à-dire de celles infectieuses.
Oui, voilà. C'est-à-dire les cardiopathies rhumatismales liées en général au streptocoque. Mon travail, c'est de dépister ces patients, de monter un dossier quand ça nécessite une prise en charge chirurgicale. Et dans ce cas, je fais intervenir des associations comme celle de mécénat chirurgie cardiaque, puisque ici, la demande étant trop forte, on a un seul service de chirurgie cardiaque. Et le niveau socio-économique étant très très bas, donc c'est difficile pour les patients de pouvoir se prendre en charge, enfin aux parents de pouvoir prendre en charge leurs enfants.
Financièrement. Donc, ça veut dire, docteur Hélène Diamé, que quand même il y a une partie de ces opérations qui, techniquement parlant, peuvent être réalisées à Dakar.
Oui, techniquement parlant, il y en a quelques-unes qui peuvent se faire au niveau du Sénégal, au service de chirurgie cardiovasculaire. Certaines cardiopathies congénitales, simples, celles qui sont les plus bénignes, et puis les cardiopathies valvulaires, on fait les remplacements valvulaires.
Et ça, elles ont lieu
et
où
Le coût reste
très cher. Et c'est justement, ces opérations ont lieu où? Dans quel hôpital?
Au service de chirurgie de Fann.
De Fann, à l'hôpital, au
le
CHU de Fann.
Le professeur Mamadou Ndiaye, voilà.
D'accord, c'est dans ce service que ça a lieu. Mais il y en a certaines opérations qui sont donc un peu trop compliquées, un peu chères, et dans ces cas-là, effectivement, les opérations sont faites en France. Les malformations dont on parle sont-elles fréquentes au Sénégal?
Oui, elles sont fréquentes. Elles restent fréquentes pour les cardiopathies congénitales. Les cardiopathies rhumatismales, elles sont vraiment très très fréquentes par contre, et ça handicape beaucoup la vie sociale de l'enfant. Les cardiopathies congénitales, on est sur la même fréquence que
partout dans le monde.
Partout dans le monde, puisque voilà, il n'y a pas de cause clairement déterminée, à part quelques-unes infectieuses, toxiques, mais en général ça reste un accident isolé.
Sur la question des rhumatismes articulaires aigus, ça veut dire qu'on n'avance pas beaucoup sur justement la prise d'antibiotiques quand il le faut
On n'avance pas beaucoup, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de cas, donc la prévention n'est pas, parce que en fait il faudrait agir surtout sur la prévention. Il ne faudrait pas attendre que les vases soient totalement détruits. Et on rencontre quand même encore beaucoup d'enfants qui nous arrivent avec des vases totalement abîmés, en insuffisance cardiaque. Et même la prise en charge chirurgicale est compliquée après.
On a entendu dans la première partie de l'émission un papa, Oumar, qui était à Abidjan en Côte d'Ivoire et qui racontait que sa fille justement était partie en France de 4 ans pour être opérée. Il nous a bien dit qu'il y a eu un long moment avant que le diagnostic soit posé. J'imagine aussi qu'au Sénégal se pose le même problème avant que ces petits malades arrivent chez vous. Une fois qu'ils sont chez vous, on imagine bien que le diagnostic est posé, mais il y a un certain temps avant qu'ils arrivent chez vous, docteur Diamé.
Oui, ils mettent du temps et des fois même ils nous arrivent sans que le diagnostic soit posé. Donc c'est surtout pour les populations rurales et semi-rurales, c'est surtout pour ces personnes-là qu'il y a un gros souci. À Dakar, beaucoup moins, mais dans les zones rurales ou semi-rurales, il y a quand même un déficit de diagnostic. Le diagnostic est très tardif parce que les parents amènent tard l'enfant chez le médecin ou parce que...
Et parce que les médecins ne sont pas toujours formés à diagnostiquer ça.
Voilà, exactement, exactement. C'est là où j'allais en venir. C'est là tout l'intérêt de l'association de mécénat chirurgie cardiaque, parce que en plus de nous prendre nos patients, ils essayent de former un maximum de médecins, pédiatres et cardiologues au dépistage simple de certaines cardiopathies,
et
des
cardiopathies en général. Et vous avez bénéficié de ces formations?
Oui, j'ai bénéficié il y a 3 ans de cette formation, qui m'a beaucoup apporté d'ailleurs.
Professeur Francine Leca, parlons justement de rester en ligne avec nous, hein, docteur Diamé, j'ai encore des questions à vous poser, mais professeur Francine Leca, en quoi consistent ces formations et ça dure combien de temps?
Ben, on a créé donc des bourses de formation pour une prise en charge complète de ces médecins qui viennent passer exactement un mois à Paris, où on leur dispense des cours théoriques, mais aussi, et ils en raffolent en général, des cours pratiques, des cours d'échocardiographie, et aussi des cas cliniques, c'est-à-dire on leur présente des dossiers, on les fait travailler, qu'est-ce que vous pensez de tel cas, que vous évoque cette radio, que vous évoque cet électro, etc. Et c'est vrai que Elena a été une extraordinaire étudiante, entre guillemets, parce que il faut vous dire que ce ne sont pas des étudiants, ce sont des médecins confirmés, installés, etc., qui viennent se recycler en cardiologie pédiatrique. Et Elena, aujourd'hui, est une de nos meilleures référentes dans le monde. Elle fait un travail magnifique de qualité et d'humanité.
Et vous avez réussi à en former combien comme ça? Et vous continuez à en former combien par an?
Jusqu'à présent, ça va vous paraître faible, mais on a formé un peu plus d'une centaine.
Mais c'est pas mal, non? Ça me paraît pas.
Parce qu'on prend, on en prend 12 par an, pas plus, de façon à ce que ce soit vraiment, j'ai intitulé ça au départ, formation intensive en cardiologie pédiatrique. Et ils ont la chance, ces étudiants, d'avoir le professeur Jean Cachaner, qui était le chef de service de Necker Enfants Malades, qui dirige, avec une qualité formidable, qui dirige cet enseignement.
Docteur Hélène Diamé, comment se passe le retour de ces enfants? Parce que j'imagine qu'il y a tout un suivi des patients après l'opération, et ça c'est vous qui l'assurez sur place.
Oui, en fait, le retour se passe très bien. On est obligé de sensibiliser, c'est surtout ça le plus important, les parents à la poursuite du suivi, parce que ça peut poser des problèmes des fois pour les patients qui sont très loin des zones où on exerce. Mais en général, ça se passe très bien. On revoit ces enfants en fonction de la pathologie, de la chirurgie qu'ils ont subie tous les 4 mois, tous les 6 mois, voire tous les ans. Et ensuite, on en refaire à l'association, puisqu'il y a un suivi sur 1 an, sur 2 ans, etc. Parce que certaines complications peuvent être tardives.
Et ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a des parents qui ont du mal à faire ce suivi, tout simplement parce qu'ils habitent loin de Dakar.
Ils habitent loin de Dakar, ça pose un problème socio-économique de se déplacer. C'est difficile pour certains parents de déplacer leurs enfants. Parce que ce qu'il faut bien entendre, surtout pour les populations, par exemple de la zone de Thiès où j'ai longtemps exercé, c'est difficile pour certains parents d'assurer le traitement médical, quand il y a un traitement, par exemple un traitement anticoagulant à faire. Il y a un bilan biologique régulièrement qu'il faut faire pour ces patients-là. Et surtout quand ce sont des enfants adolescents, c'est difficile de les sensibiliser à la prise du traitement tous les jours, pour toute la vie. C'est assez compliqué. Donc il faut être tout le temps derrière, les appeler. Voilà. Et en général, on essaie de rester disponible pour eux. Et ça se passe en général très bien.
Professeur Francine Leca, dans quelles circonstances il y a besoin d'un traitement de suivi dans ces opérations? Il y a des cas où il n'y a plus rien besoin de faire, en gros, après.
Oui, heureusement, d'ailleurs, Elena vous l'a bien dit, il y a les congénitaux et les valvulaires. Les valvulaires, c'est dû au rhumatisme articulaire aigu. Nous redoutons les valvulaires. Pourquoi? Parce que les lésions valvulaires sont souvent très importantes. On n'arrive pas ou on arrive mal à plastifier, c'est-à-dire à réparer cette valve. Ça veut dire qu'il faut à ce moment-là la changer. La changer, c'est mettre une valve artificielle et c'est imposer un traitement anticoagulant quotidien, avec les vérifications. Et ça, Elena vous l'a très bien dit. Et puis se pose aussi chez les jeunes filles le problème des grossesses ultérieures. Donc c'est vrai que nous redoutons vraiment ces pathologies valvulaires. Par contre, pour les congénitaux, dans la grande majorité des cas, il n'y a plus de traitement après l'opération, ou un traitement d'aide, de récupération pendant quelques semaines ou mois. Mais la plupart de ces enfants sont guéris. Guéri ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être surveillés. Et Elena suit très bien ses patients, ce qui n'est pas le cas toujours. Et chez nous, à Mécénat, nous avons une personne qui est, dont un des rôles essentiels est justement, sans arrêt, de tanner nos correspondants locaux pour avoir des nouvelles des enfants. Et c'est pour ça que...
Pour vous, c'est important.
Ah, mais moi, c'est important. Écoutez, il faut savoir...
À quoi ça sert ce qu'on fait?
Non, mais en bref. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en reparlera peut-être le parrainage scolaire, parce que c'est pas tout de guérir un enfant, mais ensuite faut qu'il aille à l'école. Donc vous voyez, on veut redonner une vie et une belle vie à ces enfants et quelque chose de durable. Donc le suivi à mes yeux est extrêmement important, et c'est en partie pour cela et pour le parrainage scolaire que nous souhaitons dans toutes ces villes d'Afrique d'où viennent nos enfants avoir des bureaux locaux qui vont aider justement les médecins. Parce qu'Elena a un travail énorme. C'est vrai que c'est pas facile pour elle, comme pour tous les autres, d'aller rappeler les parents. Les parents ne reviennent pas, soit parce que l'enfant va bien et trouve que c'est pas utile de revenir, soit parce que ça coûte trop cher. Faire le voyage, payer... pour les médecins, c'est un énorme travail. Ils n'ont souvent pas le temps de faire ça. Ils le font quand même, mais c'est difficile. Et on voudrait les aider au maximum en ayant des référents locaux qui puissent justement les aider dans ce travail de suivi des enfants.
Docteur Diamy, juste une dernière question. Quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez? On l'a bien compris, il y a cette question du suivi des médicaments et puis que les enfants reviennent régulièrement pour être surveillés. Quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez, docteur Diamy?
Bon, les autres difficultés sont surtout liées au problème économique, on en a déjà parlé, et puis le départ de l'enfant. En général, on rencontre beaucoup de difficultés, certains parents ne savent même pas comment s'acquitter des formalités administratives, des fois des problèmes au niveau du consulat, mais ça s'est beaucoup amélioré depuis quelques temps. Et puis, lors du retour de l'enfant, et c'est quand l'enfant est loin, essayer de contacter un médecin de sa localité pour qu'il puisse suivre l'enfant et nous l'envoyer peut-être une fois par an ou au minimum. Mais le gros problème, ça reste un problème de sensibilisation, c'est la prévention. Il faudrait que nos responsables gouvernementaux nous aident, en tout cas, pour le problème des valvulopathies, pour les cardiopathies valvulaires, les cardiopathies acquises de l'enfant, nous aident à établir un bon programme de prévention et de prise en charge de ces enfants une fois qu'ils sont atteints. Une fois qu'ils sont atteints, donc il y a depuis quelque temps des consultations qui se font dans les écoles mais de Dakar seulement, où on essaye de dépister à partir du CP les cardiopathies, les maladies en général de l'enfant. Et on arrive à dépister beaucoup de cas qui sont passés au travers des mailles du filet des médecins. Et c'est pour ça qu'il faudrait que dès la naissance, les enfants soient pris en charge par un pédiatre. Dès le premier mois, la consultation, puis une prévention secondaire, c'est-à-dire expliquer aux parents ce qu'il faut faire pour éviter certaines pathologies. Et secondaire, quand l'enfant est atteint, aider au maximum les parents à aller régulièrement voir le médecin.
Merci beaucoup, docteur Hélène Diamé. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité de cardiologie de l'Institut d'hygiène sociale de Dakar et vous êtes référente locale pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. On a Patience qui nous appelle de Brazzaville au Congo et qui a un témoignage à apporter. Patience, bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour madame. Je voulais remercier, vraiment un grand merci à l'association qui a aidé mon neveu qui était pratiquement mourant, qui depuis la naissance, on avait découvert la cardiopathie au CHU, mais par manque de matériel et des spécialistes, on ne pouvait pas l'opérer. Mais comme étant croyant, je dis gloire à Dieu que l'association s'est pointée à notre porte, malgré c'était un peu lent au niveau du Congo, mais le petit est allé se faire soigner en France, parce qu'on pouvait faire, ça coûtait très très cher. Vraiment, il pouvait mourir. Et aujourd'hui, le petit, il a 3 ans, il a retrouvé sa santé, il va à l'école comme tout le monde, il parle comme tout le monde et il mange bien. et il fait la joie de la famille. Et je voudrais remercier aussi la famille d'accueil, la famille Rabotin, Martine et Bernard, qui a reçu Emmanuel comme étant leur fils. Donc nous sommes vraiment touchés pour cet amour qu'ils ont apporté à Emmanuel et à l'association qui a donné l'espoir à notre famille. Et vraiment, nous souhaitons qu'ils aillent de loin. Voilà.
Merci Patience pour ce témoignage. C'est important effectivement de voir, je dirais, de l'autre côté du comment c'est perçu, professeur Francine Lecas. J'imagine que c'est des témoignages que vous entendez souvent.
Oui, mais jamais trop.
Jamais
hein.
En direct. Comme ça,
jamais trop en direct. Je bois ces paroles parce que c'est vrai que ça nous.
C'est une renaissance hein, pour ces enfants.
C'est une renaissance. Absolument.
Il y a encore deux choses dont je voudrais parler avec vous que vous avez commencé à évoquer. D'abord cette question du parrainage scolaire. Vous avez raison. Il ne s'agit pas une fois que ces enfants sont sortis d'affaires, ça ne suffit pas. On sait que la scolarité est très importante. Comment vous organisez ce système de parrainage scolaire?
Eh bien, nous avons une équipe. Ce sont tous des bénévoles d'ailleurs chez nous à Mécénat. Qui s'occupe de ça, dirigé par Daniel Blanc-L'Œil, parce que c'est un vrai boulot. Et il faut d'abord que les enfants en aient besoin, c'est-à-dire qu'il y a quand même une scolarisation qui se fait dans ces pays et des enfants qui vont à l'école. Bon, donc il faut repérer ceux qui en ont besoin, il faut que les parents soient d'accord. Hein, on n'impose pas, nous on n'impose rien. On est là pour essayer d'aider, mais il faut que les parents soient d'accord. Et ce sont souvent les familles d'accueil qui se sont terriblement attachées à l'enfant et qui souvent, quand je les vois avant le départ, ils me disent oh, « vous pouvez pas savoir comme il est intelligent. En 2 mois, il parle quasiment le français. » Et c'est vrai que ces enfants sont vivaces et les familles d'accueil en raffolent et n'ont qu'une envie. C'est que cet enfant aille loin dans sa vie et disent qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est ça qui
c'est
nous a donné l'idée.
Bah,
absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les suivre, que ça aille bien dans la vie, dans l'avenir, etc. Donc on a créé cette section parrainage scolaire qui ne s'adresse qu'à nos enfants opérés. Hein. On n'est pas une association de parrainage scolaire. C'est pour nos opérés. Et c'est d'autant plus difficile que c'est pas une. On ne parraine pas une école ou un village. On parraine ponctuellement des enfants qui peuvent habiter, par exemple pour le Sénégal, ils peuvent habiter dans le nord, dans le sud, etc. Donc il faut s'assurer que l'argent qui est versé soit par les familles d'accueil, soit par notre association, on a un petit pécule pour ça, que cet argent aille bien à l'école, que les enfants aillent bien à l'école aussi. Donc il faut récupérer au moins une à deux fois par an les notes scolaires pour les donner aux parrains. Enfin, c'est le système de fonctionnement de tout parrainage scolaire. Mais qui demande beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Et je remercie vraiment notre équipe de bénévoles de s'occuper si bien de ça.
Professeur Francine Lecas, dernière question, point important, le nerf de la guerre, le financement. Ces opérations en France coûtent quand même relativement cher, quand bien même vous essayez de diminuer au maximum la durée d'hospitalisation.
Oh ben une opération, les opérations de ce genre, c'est 30, 40, 50 000 euros l'opération. Nous arrivons, non pas en les soignant moins bien, mais en partie grâce aux familles d'accueil, à réduire la durée d'hospitalisation. Et donc, à faire des économies. Et l'année dernière, mais ça c'est à revoir chaque année, l'année dernière, en moyenne, je dis bien en moyenne, une opération revenait à 12 000 euros. Ce qui est à la fois une somme très importante et en même temps pas beaucoup eu égard à ce que ça coûte normalement. Donc l'argent, vous l'avez dit, c'est le nerf de la guerre et je veux dire à ce moment que vous avez bien dit tout à l'heure, cofondatrice, c'est vrai que je n'ai pas créé cette association toute seule, mais je l'ai fait avec mon filleul, il y a bientôt 20 ans de ça, Patrice Roinette, qui n'est pas médecin mais qui est un homme de relations publiques, on va dire, qui connaît beaucoup de monde, qui est très très généreux, très dynamique, et c'est lui qui fait rentrer les sous, faut bien dire les choses.
Et
avec une petite équipe de 5-6 personnes.
Et des financements qui viennent d'où, du coup, d'entreprises de particuliers?
Alors c'est ben, comme toutes les associations, on fait feu de tout bois, on a des donations, ça c'est merveilleux parce que bon, voilà, ça arrive tout cuit, on pourrait dire. Il y a des actions qui nous donnent beaucoup de travail, qui sont des ce qu'on appelle des événements, que ce soit des événements sportifs ou culturels. Et puis surtout, nous avons bon nombre de sociétés qui sont à nos côtés, qui nous soutiennent, mais c'est une lutte de tous les jours. Parce que dites-vous bien qu'il y a des centaines de dossiers qui attendent et que je dis toujours à notre équipe dite de développement, je leur dis écoutez, donnez-moi un peu plus d'argent et moi demain je peux doubler le nombre d'enfants qui viendront. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a les équipes chirurgicales adéquates en France puisqu'ils sont opérés dans toute la France. Il y a les équipes pour les...
Il y a les familles d'accueil.
Il y a les familles d'accueil. Je fais quand même un appel, j'en profite pour faire quand même un appel aux familles d'accueil parce qu'on n'en a jamais assez, mais on en trouve. Donc, le troisième élément évidemment indispensable, c'est l'argent, parce que nous payons intégralement les frais médicaux de ces enfants.
Si vous voulez bien, merci beaucoup, hein, professeur Francine Lequin. On va terminer en parlant de la chaîne du savoir lancée par la chaîne de l'espoir. Des gens que vous connaissez certainement,
bien
on va
sûr.
Avoir en ligne le docteur Éric Chesson.
Priorité santé sur RFI.
Effectivement, pour terminer, on va parler de cette chaîne du savoir avec le docteur Éric Chesson, chirurgien vasculaire, chef de service à l'hôpital René Dubos à Pontoise, président de la chaîne de l'espoir. Docteur Éric Chesson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité santé. On trouvait que c'était un joli clin d'œil de vous avoir en même temps que le professeur Francine Lequin. Quel est l'objectif de cette chaîne du savoir? Oui. On est bien justement dans ces questions de formation dont on a parlé d'où dans l'émission.
Bien sûr. D'abord, permettez-moi de saluer Francine Lequin et le travail remarquable qu'ils font avec ses équipes. Alors, si vous...
Ah non, on n'a pas un problème de ligne téléphonique avec la France.
Mais
attendez, Éric Chesson, en fait, on a eu un petit problème de coupure de ligne téléphonique, donc il faut que vous repreniez ce que vous disiez. On vous a entendu dire bonjour
merci,
à Francine Lequin.
Merci, voilà. Éric.
mais racontez-nous cette chaîne du savoir.
Ben, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, je crois que c'est fondamental. Bien sûr, la chaîne de l'espoir soigne, opère, endort des milliers de patients sur place. Alors, on sait parfaitement qu'il y a un constat dramatique actuellement. Environ 80% des pays où nous allons deviennent inaccessibles ou difficilement accessibles pour des raisons de sécurité, pour des raisons de difficulté de se rendre sur place car ça devient extrêmement dangereux. D'autre part, il faut savoir que beaucoup de nos collègues, qu'ils soient togolais, qu'ils soient du Mali, qu'ils soient de tous ces pays en difficulté, ont beaucoup de problèmes à venir en France. Pourquoi ? Parce que il y a des difficultés pour obtenir les visas, nos hôpitaux sont inaccessibles et ils veulent se former à l'école de médecine française, mais c'est très difficile. Et donc, nous avons eu la chance de rencontrer un homme formidable qui s'appelle Carlo Dazzaro Biondo, qui est le président de Google, Europe et Afrique. Et personnellement, il s'engage et nous sommes en grande réflexion d'utiliser tous ces outils numériques pour transmettre ce savoir, pour maintenir ce lien avec nos collègues et continuer cette formation là.
Alors du coup, concrètement, ça va être, je dirais, quel genre de formation, sur quelle thématique, vous en avez déjà commencé, et sur quel support, on trouve ça comment?
Alors, si vous voulez, ce sont des supports que nous allons développer avec Google et nous allons prendre différents sujets. Le premier sujet sera un sujet de pédiatrie, c'est-à-dire de se concentrer sur le premier jour de la naissance. Le premier jour de la naissance, vous savez que c'est le premier jour de la naissance, il y a 2 millions d'enfants, de bébés qui meurent.
C'est ça, quand on parle de mortalité infantile, en fait, c'est le moment le plus critique.
C'est le jour le plus dangereux de votre vie. Et on sait, tous les pédiatres le savent, il y a 10 gestes simples qui pourraient permettre de diminuer de 70% de la mortalité. Alors, comment former les matrones, les sages-femmes, les gynécos, les obstétriciens dans tous ces pays? Eh bien, si vous voulez, essayons de passer ces messages, et donc nous sommes en réflexion avec l'ensemble des techniciens de comment développer des modules de support, des supports pédagogiques que nous pourrions diffuser. Et je crois que l'humanitaire dans son ensemble, comme beaucoup de spécialités, doivent réfléchir à ces outils numériques.
Docteur Éric Chesson, juste, ça veut dire que ce sont des modules qui seront disponibles en gros sur Internet, a priori, c'est ça?
Qui seront disponibles sur Internet, que nous allons diffuser, que nous allons moduler pour respecter les cultures, respecter le ce que sont ces pays. Et vous savez, nous sommes très présents en Afghanistan, nous allons faire une maternité en Afghanistan, c'est quelque chose de fondamental. Et moi, si vous voulez, je suis effaré de voir le nombre de pays où ça devient très difficile d'aller. L'humanitaire doit évoluer, le numérique est probablement une chance extraordinaire, et quand nous avons la chance d'avoir des personnes comme Carlo D'Azzaro qui veulent se pencher sur ce sujet, je crois que toutes les intelligences sont importantes. Et nous sommes dans une période très difficile. La médecine, et notamment l'école de médecine française, a prouvé son efficacité. Et je vous assure que la médecine, c'est la plus belle arme de paix. Et dans le climat que nous vivons...
C'est important de le rappeler. Médecine,
oui, et je crois que c'est un défi que l'ensemble des organisations humanitaires françaises, et notamment médicales, doivent relever, et elles sont bienvenues pour réfléchir avec nous.
Merci beaucoup, docteur Éric Chesson. Vous nous tenez au courant quand ce sera disponible sur Internet, parce qu'on a beaucoup de personnel soignant qui nous écoute et qui seront heureux de pouvoir effectivement se former comme ça. Professeur Francine Leca, merci beaucoup d'être venu. Lundi, on parlera du traumatisme collectif, justement, suite aux attentats. Alors, on pense évidemment à l'attentat contre Charlie Hebdo, mais aux attentats qui ont lieu un peu partout dans le monde. Quel est l'impact? Comment prendre en charge les traumatisés? Un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.